crois sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste.
Les regardeurs.
Come and go with me.
Ils ont marqué notre sensibilité en découvrant ou commentant des chefs-d'œuvre qui depuis appartiennent à l'histoire de l'humanité. Ce sont les regardeurs. Aujourd'hui, nous observons ensemble une étrange œuvre, un impressionnant rouleau de 36 mètres de long qui représente, qui est le texte original du roman culte de Jacques Kerouac, Sur la route. Écrit en 3 semaines, dit-on, entre le 2 et le 22 avril 1951, c'est 125 000 mots sur un support de 36,50 m, bricolé par Kerouac lui-même, avec des feuilles de papier calque, sans marge, ni chapitre, ni paragraphe.
Les lignes de fuite n'ont pas de territoire. L'écriture opère la conjonction, la transmutation des flux, par quoi la vie échappe au ressentiment des personnes, des sociétés et des règnes. Les phrases de Kerouac sont aussi sobres qu'un dessin japonais. Pure ligne tracée par une main sans support et qui traverse les âges et les règnes. Il fallait un vrai alcoolique pour atteindre à cette sobriété-là. Gilles Deleuze, 1977.
En entrant dans la lumière retenue de l'exposition du Centre Pompidou, une table immense soutient une longue ligne de papier jauni frappée d'innombrables caractères. Cette route de papier, ce sillage d'émotions, ce kakémono qui déroule un paysage typographique, cette note tenue comme un riff de saxo, ce long rail rayé de phrases intenses, lui dans la pénombre du 5e étage du fameux musée. C'est le rouleau original de Sur la route de Jacques Kerouac. Pas de marge. Les 22 cm de largeur sont dévorés comme s'il fallait bouffer tout l'espace. Aller au bout des possibilités du papier qui, quand il s'effrite sur les bords, mangé par le temps ou par la vie comme le fut le cerveau enfiévré de l'auteur, les mots sont happés par l'absence mais la phrase continue. Le rythme ne s'interrompt pas, les caractères se superposent, parfois décalés par le scotch qui tenta de réparer des accros. Et l'interlignage, minimum, superpose les lignes qui sonnent comme les traverses des rails quand le train est à pleine vitesse. Peu de place pour les corrections, glissées, infiltrées entre les mots, quelques ratures. En regardant le tapuscrit, on croit entendre le battement énervé des touches de la machine, la sonnette du bout de page et le chariot ramené furieusement d'un geste de bras. On perd du temps, on perd du souffle, il faut tenir la transe, il faut tenir la flamme, ne pas se distraire du trip et garder le cœur battant pour écrire les 6000 mots par jour. 12 000 au début pour se lancer, 15 000 le dernier jour pour en finir. Il était inimaginable qu'une forme tapuscrite transmette une intensité comme le fait ce rouleau. L'encre, oui, la calligraphie, oui, qu'elle soit arabe ou chinoise ou zen, bien sûr l'énergie du corps s'y trouve, mais des lettres à la machine, c'est impossible. Mais pourtant la transparence du calque qui s'embrume d'encre, la force de la frappe, l'invasion fourmiculaire des caractères donne l'impression évidente d'une bagnole emballée. À tombeau ouvert. Faire du Proust en plus vite, disait Kerouac. Oui, il a raison quand il dit « Et je vais taper à toute vitesse, à toute berzingue. Au diable les structures bidons, après on verra. »
Ici-bas sur la terre noire, avant que nous montions tous au ciel, vision de l'Amérique. Tous ces voyages en stop, tous ces voyages en train, tous ces retours vers l'Amérique, par la frontière mexicaine, par la frontière canadienne. Jacques Kerouac, 1960.
Et aujourd'hui, pour parler de Kerouac, de la Beat Generation, de la poésie, de l'explosion des mots, de ce que c'est que vivre intensément, j'ai la chance de recevoir Jean-Jacques Lebel. Bonjour Jean-Jacques.
Bonjour.
Jean-Jacques, artiste absolument, Évidemment, poète, théoricien, regardeur, observateur, commentateur, écrivain, commissaire d'exposition, artiste d'abord, artiste absolument. Vous avez été commissaire avec Philippe Alain Michaud de l'exposition Beat Generation au Centre Pompidou, mais vous fûtes auparavant commissaire de l'exposition Beat Generation au Centre Pompidou-Metz, qui a été également, où ça, dites-nous Jean-Jacques
Au Frénois,
oui.
Au ZKM, au Musée d'Art Moderne de Budapest, et au Champ Libre de Rennes. C'est une exposition itinérante qui a donné suite à celle-ci, qui est beaucoup plus importante, qui fait tout le sixième étage du Centre Pompidou.
Et vous avez été le premier traducteur, je pense, des poèmes de la Beat Generation. C'était une anthologie que vous avez fait dans quelles années ?
65. C'est-à-dire que j'ai commencé à traduire avec Ginsberg, avec Corso, avec Ferlinghetti, avec McClure, dès 58. Mais il a fallu trouver un éditeur, et finalement c'est lui qui nous a trouvés, c'est autre que Maurice Nadeau, le grand Maurice Nadeau, qui a publié mon anthologie chez De Noël en 65.
Inutile de dire que ce furent des amis, ce sont des amis encore, ceux qui des sont frères, encore avec nous, des frères, oui, vous avez raison. Et votre connivence avec eux a été continue, et encore aujourd'hui avec ceux qui sont là, et je pense en particulier à notre ami commun John Journeau.
Oui, oui. Qui n'a pas pu venir, malheureusement. Et à propos du rouleau dont vous parliez très justement tout à l'heure, c'est 36,50 mètres, mais les 50 derniers centimètres manquent, parce qu'ils ont été dévorés par un chien.
Au Mexique, c'est ça ?
Non, à Paris, à New York, pardon. Le chien de Lucien Carr, qui était énervé parce que Kerouac et lui, Lucien discutaient, il s'occupait pas de lui, alors il a bouffé 50 centimètres du manuscrit.
Ça veut dire qu'on ne connaîtra jamais la fin ?
Mais on l'a connu parce qu'on l'a connu si, parce qu'il y a eu d'autres versions. Et alors, ce qui est absolument fabuleux, j'appelle cet extraordinaire chef-d'œuvre, une sorte de Mississippi de mots et de phonèmes, n'est-ce pas ?
C'est un flux.
C'est un flux. Continue Deleuze a mille fois raison, comme toujours, hein, quand il parle de la fluidité, de l'interminable déroulement de ces flux dans toutes les directions. Ça a été donc écrit en 51, et il allait très très vite en effet, parce qu'il prenait de la benzédrine, c'est-à-dire des amphétamines. Hein.
Parfois on dit que c'était que du café, mais en fait non plus.
Bien sûr, mais il le dit, il s'en cache pas.
D'ailleurs,
pour ne pas dormir pendant plus de 24 heures, c'est impossible sinon. Et alors, ils ont mis, je dis « il » au pluriel, parce que c'est Ginsberg et lui, ont mis 7 ans pour trouver un éditeur. Et quand le livre est finalement paru... Chez l'oncle de Carl Solomon, qui est le dédicataire de Howl, et qui était présent en 47 à Paris à la séance du vieux colombier d'Antonin Artaud.
Alors, Howl, pour nos amis, malgré tout, c'est le chef-d'œuvre de...
De Allen Ginsberg, qu'il a lu pour la première fois en 55 à San Francisco. Donc, c'est... lui était présent à Paris, à Carl Solomon, et il s'occupait un peu d'une collection de livres de poche pour son oncle. Et c'est comme ça que la version tronquée,
oui, parce qu'il y a
de On the Road est parue chez lui.
Vous voulez dire que le livre que j'ai lu, On the Road...
La première version est une version tronquée.
Mais la deuxième aussi, en français, les traductions en français sont tronquées également, non ?
Oui, mais la nouvelle traduction, la nouvelle version, la seule version juste... est paru aussi chez Gallimard.
Il y a peu de temps.
Il y a 2 ans et demi. Ouais. Parce que Isaac Gewitz a fait un travail énorme. Il a fait ce que les soi-disant spécialistes qui n'en sont pas auraient dû en faire depuis longtemps. C'est-à-dire comparer le manuscrit tapuscrit avec ce qui était publié. Il s'est rendu compte que c'était pas du tout le même livre. Il n'y avait pas de ponctuation, ils en ont remis, ils ont changé certains passages de place, ils ont coupé tout ce qui concerne le sexe. Alors, c'était vraiment pas le même livre. Et pourtant, cette version tronquée a été un best-seller dans le monde entier.
Moi, quand je l'ai lu à 20 ans, comme tout le monde, voilà. Si j'ose dire, ça m'a enthousiasmé malgré tout. Donc,
et Bob Dylan aussi, parce qu'il a changé de vie. Quand il s'appelait encore Zimmerman, il avait On the Road dans sa poche quand il est arrivé à New York.
Alors, vous nous avez envoyé tout de suite dans le rhizome, vous parliez de Ginsberg, Ferlinghetti, évidemment, des personnages. Ça dessine une constellation qu'on a appelée la Beat Generation. Peut-être dites-nous un mot de ce que c'est. C'est un rhizome, un réseau de copains, c'est quoi ?
C'est... C'est pas un groupe, en tout cas, ça c'est sûr. Une espèce de tribu liquide, est-ce que ça existe, ça? Une tribu
pas mal,
liquide.
On peut l'inventer pour l'occasion.
Et la doxa universitaire américaine voudrait que ça ait commencé à Columbia en 44, avec la rencontre de Ginsberg, de Kerouac qui était là, qui avait une bourse comme athlète.
Pas oui, comme joueur de football américain.
Oui, et Burroughs, qui avait 10 ans de plus que. Mais c'est pour ça que cette exposition au Centre Pompidou est quand même importante, parce que elle change cette légende, elle la précise, elle la rend plus juste. Et la même année, en 1944, en 1943, même 6 mois avant, Columbia commençait, est au nord de la ville, à Greenwich Village, au centre de Manhattan, il y avait André Breton et les surréalistes en exil. Et ils avaient une revue qui s'appelait View, et un numéro triple View, a publié un texte extraordinaire d'un jeune Américain de 15 ans qui s'appelait Philippe Lamantia.
Incroyable.
Qui a donc envoyé 3 poèmes magnifiques et une déclaration d'adhésion aux idéaux du surréalisme.
View, c'était Breton, Marcel Duchamp et...
Aimé Césaire, Max Ernst, enfin...
C'était du lourd, comme
et
on
tout,
dit.
Et tout d'un coup, on trouve ce jeune poète qui sort de nulle part, 15 ans, l'âge où Jarry a écrit Ubu. Hein.
Alors on parle de Philippe Lamantia, on va revenir sur Kerouac, mais quand même c'est intéressant
Lamantia,
de voir
très
par où ça vient.
Parce que c'est la double entrée, la double naissance de la Beat Generation, parce que Philippe Lamantia, on le retrouve à San Francisco en 55-56, il est un des co-fondateurs de ce qu'on appelle la Beat Generation. Et on l'oublie toujours, c'est pour ça que ici, dans notre exposition, il a sa place, qui est une place centrale.
Un mot quand même de plus sur notre rouleau. Avant le rouleau, parce que le texte a été écrit au début des années 50, mais au fond, la conception, le projet est plus ancien, non? C'est pas vers 47-48 qu'il a eu l'idée de faire ça, ou comment
il s'est
passé?
Il a pris des notes sur le voyage, il a fait des dessins. Il a fait des propositions de couverture, il s'est figuré en train de faire de l'autostop. Et c'est très curieux parce que les premières versions de ces couvertures, c'est signé John Kerouac. En fait, c'est la traduction de Jean, parce que le vrai nom de Kerouac, c'est pas du tout Jack, c'est un surnom Jack. Son vrai nom, c'est Jean-Louis. Et il signait Petit Jean. Sa langue maternelle, c'est le français canadien. C'est pas du tout l'anglais.
Et il a écrit en français.
Il a écrit les 3 premières versions sur la route, on the road, en français.
Ça, c'est quand même une...
Et pourquoi est-ce que, tout d'un coup, il a basculé et qu'il est devenu Jack? Ben, c'est très simple à comprendre. C'est qu'il avait une mère, qui s'appelait d'ailleurs Mémère, qui était une grenouille de bénitier épouvantable, raciste. Elle lui a dit à un moment donné, je ne veux pas de nègres, de juifs chez moi. C'est-à-dire qu'elle a interdit la maison Kerouac à Ginsberg, qui était le meilleur copain de Kerouac. Et ceux et celles qui ont lu On the Road savent que le principal personnage, c'est-à-dire lui-même, avait une histoire d'amour avec une jeune afro-américaine. Donc elle ne voulait pas entendre parler de ça. Et comme elle ne parlait pas un mot d'anglais, il a tout d'un coup basculé dans la langue anglaise, qui était sa deuxième langue, et il a transformé tout, et il est devenu Jack. C'est intéressant.
C'est intéressant de se rendre compte.
Et alors, dans la vitrine, à côté de ce non merveilleux chef-d'œuvre de 36 mètres moins 50 centimètres, il y a une petite vitrine où il y a les premières versions en français. Les universitaires américains ne veulent pas qu'on parle de ça. Yeah, oui, vous savez, Donald Trump, il ne sort pas du vide. Il sort de cette idéologie patriotarde épouvantable.
Dites-moi, Jean-Jacques Lebel, cet objet étrange, pourquoi Kerouac fait cet objet, ce long rouleau? D'où ça vient? Qu'est-ce que ça veut dire formellement? Quel est cet objet?
Comment est-ce qu'on pourrait le comprendre? Il y a plusieurs possibilités. La première qui me vient à l'esprit, c'est le jazz. C'est l'improvisation jazzistique, qui n'a pas de début ni de fin, qui simplement se déroule comme ça.
C'est une des premières sources de l'époque.
Ouais. Il a écrit de sublimes poèmes sur le jazz, il s'est adressé à Charlie Parker, Thelonious Monk, enfin. Et alors, comme on dit, le phrasé musical, il y a le phrasé poétique, et donc à ce format de l'infini, n'est-ce pas, du déroulement infini. Et ensuite, il y a la grande question. de ce que Ginsberg appelle « spontaneous bop prosody » en anglais, ce qui veut dire « prosodie bebop spontanée ». Mais qu'est-ce que ça veut dire « prosodie bebop spontanée » traduit en français, c'est très simple, ça s'appelle l'écriture automatique. C'est tout simplement ça, celle que pratiquait Lamantia dans les poèmes qui ont été publiés par Breton en 44 et dans d'autres revues francophones à New York. Et mais c'est tout à fait ça. Il fallait trouver une autre forme pour que l'écriture automatique, c'est-à-dire non censurée, non raturée, puisse se dérouler, que le discours puisse se dérouler en toute liberté, et c'est pour ça qu'il y a un rouleau, c'est pour ça que c'est infini. Et la troisième possibilité...
Aucune interruption, faut y aller...
Voilà,
faut pas...
et sans ponctuation. C'est pour ça
très
que,
peu, un petit oui, peu quand
on
même.
On fait des tirets de temps en temps, mais c'est un peu comme des notations musicales, encore une fois. C'est pas des ponctuations grammaticales. Et la troisième possibilité, et que je ne donne pas comme une vérité évangélique, c'est une pensée, c'est un rêve, c'est le rouleau des 120 journées de Sodome, de Sade. Pourquoi ?
Oui, racontez, parce alors, que pourquoi nos auditeurs ne savent pas tous que ça a été préservé en rouleau.
Voilà. Sade était enfermé pendant 28 ans, sur dénonciation de sa belle-mère. Hein. Il lui aussi avait une mémère autoritaire. Et donc, il l'a écrit d'une écriture minuscule sur des feuilles qu'il a lui aussi collées les unes aux autres de façon à faire un rouleau, mais sur une calligraphie minuscule, il faut une loupe pour la lire, et ce rouleau a été planqué par Sade entre deux, dans un interstice des pierres de sa cellule. Et lors de la démolition de la Bastille, ça a été découvert par un type qui avait acheté les pierres de la Bastille pour reconstruire et utiliser ces pierres. Et vous savez que dans tout le quartier de la Bastille, et même de l'autre côté de la Seine, il y a des maisons qui sont construites à partir des pierres de la Bastille. Alors, donc, est-ce que Kerouac avait entendu parler de ça? Je n'en sais rien, mais c'est tout ce que
c'est
je peux
pas
vous
du tout
dire.
Impossible dans les filiations littéraires qu'il aime, parce qu'il disait quand même Proust en français, il le disait.
Absolument.
Qui lui aussi était un colleur de
bien
papier.
Sûr.
Hein, les
bien
paperoles
sûr.
De course.
Et Kerouac était très lié à Paul Bowles, à Tanger. Paul Bowles était un grand qui vivait à Tanger de toute l'année. Il avait une bibliothèque absolument d'érudits, il disait en plusieurs langues.
Oui,
il avait ça dans sa bibliothèque.
On a l'impression que Kerouac est un mauvais garçon qui part et qui écrit comme
pas
ça vient.
Pas du tout. C'était extrêmement lettré.
Extrêmement lettré, oui.
Et il a souvent lu Proust, il a souvent lu Joyce, il a souvent lu Céline. Et Céline aussi donnait dans le discours ininterrompu.
Je me souviens d'une conversation dans laquelle il dit « Jamais je n'accepterai un prix avant que Céline n'en ait reçu un ».
Oui.
Hein, voilà. Donc, c'est un des premières personnes qu'il est allé voir lorsqu'il est arrivé à Paris, tout
bien
quoi, d'ailleurs.
Bien sûr, bien sûr. Et Ginsberg et Burroughs y sont allés aussi. Enfin bref, il y a plusieurs hypothèses concernant ce rouleau. Je pense que c'est la forme même de l'écriture jazzistique ou jazzifiée, n'est-ce pas, qui a trouvé sa forme indépendamment des traditions. Et puis surtout, ce qui est merveilleux, c'est que c'est impubliable. On ne peut pas publier un rouleau. Et alors, il y en a un autre qui a essayé de faire ça dans la Beat Generation, c'est Corso avec Bombe. N'est-ce pas? Et dans ma traduction, malheureusement, ça a été coupé en deux, mais sinon, le calligramme, qui décrit la bombe atomique de Corso, elle fait aussi 1m20. Elle fait pas 36 mètres, mais elle fait 1m20.
On pense à une sorte de, vous venez d'employer un mot dangereux, qui est le mot calligramme. On pense à un calligramme absolu de 35 mètres de long. Il y a quelque chose, c'est une pluie,
une averse.
Apollinaire avait une importance pour eux ?
Centrale. Et d'ailleurs, quand Ginsberg a été professeur de poésie contemporaine à l'université de Pékin, il a commencé ses cours sur Apollinaire. Et quand il était à Paris, en 1957-58, il est allé au Père-Lachaise à la recherche du tombeau d'Apollinaire, et il a écrit un sublime poème relatant cela.
Vous l'avez, non ?
Oui, vous voulez que je vous en lise la traduction ?
Allez, allons-y.
Alors,
j'aimerais bien.
Je vous en lis un extrait. Sur la tombe d'Apollinaire, Allen Ginsberg. Je me suis rendu au Père-Lachaise à la recherche des traces d'Apollinaire le jour où le président des États-Unis est arrivé en France pour la grande conférence des chefs d'État. Passons l'aéroport d'Orly bleu d'une clarté printanière. Dans l'air planant sur Paris, Eisenhower arrive à tire-d'aile de son cimetière d'Amérique. Et sur les tombes brouillardes du Père de la Chaise flotte l'illusion d'une brume aussi épaisse que celle d'une fumée de kiff. Peter Orlowski, son amant, et moi traversons doucement à pied le Père Lachaise. Nous savions l'un et l'autre que nous mourrions, mais nous nous donnions donc temporairement la main avec tendresse dans une éternité de ville miniature. Routes et panneaux, indicateurs, rochers et collines et noms désignant la demeure de chacun en quête de l'adresse égarée d'un remarquable Français du néant. Pour rendre notre affectueux crime d'hommage à son menhir éclopé. Et poser mon howl américain temporaire par-dessus son silencieux calligramme, justement.
Magnifique.
Afin qu'il puisse le lire entre les lignes, avec ses yeux à rayons X de poète, ainsi qu'il avait par miracle lu le chant de sa propre mort dans la Seine. Je souhaite que quelque sauvage moine ado dépose son libelle sur ma tombe. Je saute un passage, mais ici à Paris, je suis ton invité, ô amicale ombre, la main manquante de Max Jacob, Picasso de jeunesse, me fournissant un tube de Méditerranée, et moi-même, me rendant au vieux banquet rouge de Rousseau, le douanier Rousseau, j'ai bouffé son violon.
C'est très émouvant, parce qu'on a pris une identification qui est en train de se faire entre Apollinaire...
Exactement, et à la fin du poème, il a fumé un joint, il s'assoit sur la tombe d'Apollinaire, et il devient Apollinaire. Je vous lis la dernière phrase, la dernière vers. « Une fourmi court le long de ma manche en velours, l'arbre sur lequel je m'appuie pousse lentement, buissons et branchages surgissent parmi les tombes, une seule toile d'araignée soyeuse miroite sur le granit. Ici, je suis enterré et m'assois près de ma tombe sous un arbre. »
Il est devenu Apollinaire.
Voilà.
Il est devenu Apollinaire.
Voilà.
Identification absolue.
Ça explique ce qu'il est venu faire à Paris. Pas seulement pour Apollinaire, mais pour Rimbaud.
Paris avait de l'importance ?
Paris, oui. Pas tellement la France, mais vous voyez, dans notre exposition, je pense qu'une des images, une des photos qui explique, qui résume le tout, c'est la dernière photo de l'exposition, celle où on voit Ginsberg assis sur son lit dans sa chambre d'hôtel au Beat Hotel, 9 rue Gilles-Cœur. Derrière lui, une reproduction du portrait de Rimbaud par Fantin Latour, et juste au-dessus, Cézanne. Une affiche de Cézanne, d'une exposition Cézanne. Pourquoi Cézanne? Parce que, il l'a dit et répété, il a voulu transposer la méthode cézannienne, qui a donné le cubisme, le morcellement de l'espace et tout ça, dans sa prosodie.
Là, on parle de Ginsberg, pas de Kerouac.
Non, mais Kerouac, Ginsberg... c'est plutôt Céline, et Proust, et Joyce. Ginsberg, c'est plutôt William Blake, Rimbaud. Mais Rimbaud est aussi avec Kerouac, c'est évident.
Et il y a d'autres mélanges étranges qu'on va découvrir. Alors, ce que je vous propose, on va revenir ensuite sur Kerouac. Et justement, je voudrais écouter à présent un extrait du roman de Kerouac sur la route, lu par Jacques Gamblin, l'acteur, et diffusé sur France Culture le 30 juillet 2012.
En fait, ce livre, cette route qui défile sur le papier... Et c'est une grande lettre que je t'écris, Dean. Je fonce te rejoindre. Je fonce te raconter sur ce rouleau blanc tout ce que nous avons vécu ensemble. Tout ce que j'ai vécu sans toi, Dean. Dean Moriarty. Je suis avec toi, Dean. J'entends ta voix dans mon oreille. Toutes les voix du passé me parlent. Roy Johnson, Marie Lou, Roland Major, Rémy Boncœur. Et moi, Sal Paradise. Je me parle. J'étais prêt à te rencontrer, toi, Dean Moriarty, le maître du temps. Celui des Mexicains, des enfants, des accros à la benzédrine. Celui du cœur qui bat, du fou à l'intérieur de nous, qui nous dit d'y aller, oui, par là, parce que là, nous avons notre cri à pousser, notre voyage à faire, notre prière à dire.
Prayer beads on the holy book, my knees are cold.
Nous entendions, cher Jean-Jacques Lebel, cet extrait de En route, mais
C'est curieux, cette fascination qu'il y a à l'intérieur de tout le livre pour Dean Moriarty. Qui était le personnage et quel était son vrai nom?
Neil Cassady était une espèce de clochard céleste, hein, le Dharma Bum, incarné, fou furieux, ne tenant pas en place. Il avait la danse de Saint-Guy. Et il ne se sentait bien qu'à au volant d'une voiture. Et il a entraîné tous les autres sur la route. Et c'est lui qui conduit dans ce fameux périple à travers les États-Unis, la bagnole et la benzindrine qu'on vient d'entendre. Et cette espèce d'idée qu'il y a toujours, il faut aller toujours plus loin et plus vite, ça vient de lui. Et pendant qu'il conduisait, il n'arrêtait pas de parler. Il saoulait tout le monde de ses paroles et il racontait des choses qu'il inventait plus ou moins, n'est-ce pas? Des fictions vécues et toujours des histoires de filles, de femmes. C'est un séducteur. Il avait plusieurs femmes dans chaque ville, n'est-ce pas? Et il allait de l'une à l'autre sur la route, n'est-ce pas?
Et revenait vers son ancienne femme, en trouvait une autre.
Et puis entre-temps, il y en avait plein d'autres à la station-service et dans les rues et partout.
Il était magnifique, semble-t-il. Grand sportif, lui aussi.
Oui, très, très musclé, très noueux.
Ouais.
Et évidemment, Ginsberg, lui, était fou amoureux de lui. Et il était le personnage qui a inspiré à Kerouac ce roman, si on peut appeler ça un roman, ce roman fleuve, ou plutôt ce fleuve qui n'est pas un roman.
Je voudrais lire un tout petit texte de Kerouac qui évoque pour moi, j'imagine un petit peu comme ça, ce Neil Cassady. « Les seuls qui m'intéressent, dit Kerouac, sont les fous furieux, les furieux de la vie, les furieux du verbe, qui veulent tout à la fois, ceux qui ne bâillent jamais, qui sont incapables de dire des banalités, mais qui flambent, jalonnant la nuit comme des cierges d'église. »
Ben voilà, c'est le portrait craché de Neil Cassady, de Dean Moriarty, à qui il donne la parole dans le texte, d'ailleurs, tout le temps. Et pour revenir à ce que vous évoquiez tout à l'heure à propos du rouleau, le rouleau, en fait, c'est son portrait, qui se déroule comme un portrait verbal ou scriptural qui n'a pas de fin. Et il s'arrête au moment où, d'une crise cardiaque, il est obligé de s'arrêter, après avoir fait des enfants partout, sur son parcours.
C'est un étrange personnage fascinant, qui n'a pas d'œuvre réellement.
Parce qu'il a la retranscription de ses paroles.
Il paraît qu'il y a des lettres extraordinaires, il y a un recueil de lettres qui paraît qu'il est très très beau. Absolument. Et qui a inspiré dans son style Kerouac.
La rapidité de la frappe, oui absolument. Et il y a le fameux poème qu'ils ont écrit en trois, qui est un véritable cadavre exquis, qui s'appelle Pull My Daisy, et qui a donné son titre au film de Robert Frank et de Al Leslie, qu'on voit dans l'exposition, qui est le seul vrai film de la génération de la Beat Generation, où ils jouent tous. Ils jouent leur propre rôle dans le film.
Oui, parce que c'est assez
sympa. Ce texte a été écrit par eux trois, c'est-à-dire Ginsberg, Neil Cassady et Kerouac.
Alors, deux questions. D'abord, le fameux rouleau, est-ce qu'il était connu de toute la bande?
Oui.
Il se le lisait, il se le commentait,
Bien sûr, parce qu'ils se lisaient leurs textes les uns les autres, comme ça se fait toujours, n'est-ce pas? Dans l'amitié, ça sert à ça. On n'est jamais sûr de ce qu'on écrit, on a besoin d'amis pour tâter le terrain, si j'ose dire. Et si Ginsberg n'avait pas pris sur lui de forcer la porte de plusieurs éditeurs, le livre n'aurait pas été édité. Ça vaut pour Kerouac, mais ça vaut pour Burroughs et pour Corso et pour Orlovsky.
Puisque vous parlez de Burroughs, il y a une étrange similitude, pensais-je. Lorsque Burroughs a écrit Le Festin nu, les amis sont venus, ont pris les morceaux de texte qui étaient un petit peu désorganisés, etc. On rescotché tout ça et on fait une sorte de composition. Est-ce que c'est pas semblable un petit peu cette manipulation?
C'est exactement ça, le procédé. C'est-à-dire qu'ils faisaient ça sur des morceaux de papier et donc ils se sont retrouvés à Paris, au Beat Hotel rue Jules Coeur, et je les ai emmenés chez Gilbert Jeune, sur le Boulmich. Et sur le Boulmich, ils ont acheté des grands cahiers noirs de comptables. Hein, et c'est là-dedans que Burroughs a commencé à coller des morceaux de texte qu'il avait qu'il a découpé, ou soit tapé à la machine, soit manuscrit, en y ajoutant des images découpées dans les magazines. Et ensuite, Brian Gysin, avec qui il vivait au Beat Hotel, a lui aussi commencé à faire ces fameux grillages, n'est-ce pas, de façon à structurer les bribes de textes et d'images. Et en fait, la même technique de retranscription a dû être nécessaire sur la route, parce que aucun éditeur va accepter de publier un rouleau de 36 ou 37 mètres de long, ni des petits bouts. C'est le problème de la boîte en valise de Marcel Duchamp, n'est-ce pas? Et Duchamp pratiquait l'autogestion, donc il s'est occupé lui-même de ses bouts dans la boîte verte.
Et là, c'était plutôt des agencements collectifs.
Ben oui.
C'est des procédés collectifs.
Alors, il y avait une certaine rivalité entre, pour ne pas dire plus, entre Brian Gysin et Allen Ginsberg, tous vivant au Beat Hotel 9 rue Jules Coeur, sur qui allait trouver la forme juste pour le déjeuner nu, le naked lunch. Et c'est Ginsberg qui l'a emporté, parce que c'est un véritable bulldozer. Et il a envoyé la forme publiable à Ferlinghetti, et Ferlinghetti a refusé le texte.
Alors Ferlinghetti, pour nos auditeurs, le fameux éditeur de Hall qui avait une galerie à Los Angeles ou à San Francisco ?
À San Francisco, il avait une librairie qui existe toujours, qui s'appelle City Lights Bookstore, 261 Columbus Avenue, et qui était le cabaret Voltaire de la Beat Generation, si vous voulez. Tout le monde se retrouvait pour lire des poèmes, pour s'échanger des livres, des manuscrits, se donner des rancards, tout ça. Et ça continue aujourd'hui.
Et c'est là qu'il y a eu donc cette lecture fondatrice.
Non, c'est pas là. C'est dans un autre endroit qui s'appelait la Sixth Gallery, la galerie numéro 6, qui était une toute petite galerie, donc ça devait faire même pas 40 mètres carrés, qui était une galerie d'artistes coopératives, une coopérative. C'est là, à San Francisco, pas très loin d'ailleurs de City Lights Books, où Kenneth Rexroth, le grand critique littéraire, et Michael McClure ont organisé la première lecture publique de la Beat Generation. On dit que c'est l'acte fondateur de la Beat Generation. Oui. 1955, date de la rédaction de ce texte en San Francisco par Allen Ginsberg. Et il y avait donc celui dont on a parlé tout à l'heure, Philippe Lamantia, qui a participé, Michael McClure, l'organisateur de la soirée, Philippe Whalen, un poète de premier ordre mal connu, qui est devenu moine bouddhiste après, et Allen Ginsberg, qui a lu pour la première fois en public ce chef-d'œuvre qui est Howl. Et Kerouac n'a pas participé à la lecture, mais il était dans la salle, complètement bourré, et il criait pour encourager ses amis.
Alors, je vous propose, chers auditeurs, d'écouter à présent un extrait du célèbre poème Hall d'Allen Ginsberg.
I saw the best minds of my generation destroyed by madness, starving, hysterical, naked, dragging themselves through the Negro streets at dawn looking for an angry fix. Angel-headed hipsters burning for the ancient heavenly connection to the starry dynamo in the machinery of night. Who poverty and tatters and hollow-eyed and high sat up smoking in the supernatural darkness of cold water flats floating across the tops of cities contemplating jazz. Who bared their brains to heaven under the L and saw Mohammedan angels staggering on tenement roofs illuminated. Who passed through universities with radiant cool eyes hallucinating Arkansas and Blake Light tragedy among the scholars of money and war. Who were expelled from the academies for crazy and publishing obscene odes on the windows of the skull.
J'ai vu les plus grands esprits de ma génération détruits par la folie, affamés, hystériques, nus, se traînant à l'aube dans les rues nègres à la recherche d'une furieuse piqûre. Initiés à tête d'ange brûlant pour la liaison céleste ancienne avec la dynamo étoilée dans la mécanique nocturne. Qui, pauvreté et haillons et œil creux et défoncé, restèrent debout en fumant dans l'obscurité surnaturelle des chambres bon marché, flottant par-dessus le sommet des villes en contemplant du jazz. Qui ont mis à nu leur cerveau aux cieux sous le métro aérien et vu des anges d'islam titubant illuminés sur les toits des taudis. qui ont passé à travers des universités avec des yeux radieux, froids, hallucinant l'Arkansas et des tragédies à la Blake parmi les érudits de la guerre. Qui ont été expulsés des académies pour folie et pour publication d'odes obscènes sur des fenêtres du crâne. Qui se sont blottis en sous-vêtements dans des chambres parasées, brûlant leur argent dans des corbeilles à papier et écoutant la terreur à travers le mur. Qui furent arrêtés dans leur barbe pubienne en revenant de Laredo avec une ceinture de marijuana pour New York. Qui mangèrent du feu dans les hôtels à peinture ou burent de la térébenthine dans Paradise Alley, la mort ou les torses purgatoirés nuit après nuit.
Après la voix d'Allen Ginsberg, c'est celle de Bernard Hetzig, le grand poète récemment disparu, qui lisait donc Hall dans la traduction de Jean-Jacques Lebel. Jean-Jacques Lebel, l'oralité, c'est une partie de l'aventure de la Beat Generation. C'est fondateur peut-être d'une partie de la poésie de l'après-guerre, non ?
Oui, mais vous savez... Des larmes d'émotion me viennent quand j'entends la voix de ses amis, de Ginsberg et de Bernard, tellement proches et qui sont tellement là, comme des anges qui nous ont jamais quittés en fait. Oui, l'oralité, c'est-à-dire le souffle. C'est pour ça qu'ils se sont intéressés tellement au bouddhisme et à la tradition orientale de la poésie. C'est-à-dire que Ginsberg a théorisé tout ça. Il disait que la poésie occidentale, disons, d'origine de la Grèce, qui s'origine dans la Grèce antique, dans la rhétorique, n'est-ce pas, la poésie iambique, n'est-ce pas, et jusqu'à... la grande poésie classique française, les sonnets, tout ça est arithmétiquement structuré, le vers de 12 pieds, le sonnet de 7 strophes, etc. Tandis que la poésie, selon Ginsberg, celle qui vient du jazz, celle qui vient du souffle de tout être humain, de la respiration, c'est la longueur du souffle, du saxophoniste ou du poète qui détermine la forme. Et c'est là qu'on retrouve le rouleau, n'est-ce pas ? C'est que c'est pas une question de grammaire. Artaud en était un autre qui avait compris que c'est le souffle vital qui fait le poème et pas le stylo, ni la machine à écrire, ni l'ordinateur. C'est le souffle vital de la pensée, le flux de l'eusien qui fait le poème. Alors, évidemment, ça sort par la bouche, et ça sort pas du bout du stylo ou de l'imprimante de l'ordinateur. Donc, c'est oral, en effet, et c'est quelque chose qui s'entend. C'est-à-dire que, on a remarqué avec Polyphonix et à bien d'autres occasions, que les écrivains qui écrivent pour la page, quand ils ou elles se mettent devant un micro, ils sont obligés de spatialiser leur texte et que le texte passe à travers leurs bronches et leur voix et leur corps, n'écrivent plus jamais de la même manière. Et je crois que les beatniks ont commencé par là.
Alors, vous parliez de Polyphonix, qui est un festival de poésie que vous avez co-créé.
Oui,
et dans lequel ans, oui. La poésie orale, la poésie action a eu une place considérable, mais... la poésie orale dont nous parlons, c'est aussi celle de Dada. Ils avaient peut-être
Absolument.
Une connaissance de Dada.
Ah,
c'est aussi celle d'Artaud. Est-ce qu'ils avaient une connaissance d'Artaud?
Oui.
Comment ça s'est passé?
Alors,
qu'est-ce qu'ils ont su de Dada?
Alors, pour ce qui est de Dada, c'est très simple. Il y a une source que l'on connaît très bien. C'est le fameux livre paru en 1953, où il y a la traduction pour la première fois des manifestes Dada et des textes Dada, de Motherwell, de Robert Motherwell, qui était le livre de chevet de tout ces gens. il savait pas mal de choses, parce que c'est un gros livre qui a fonctionné comme une sorte de pont entre Dada et leur génération à eux. Quant à Artaud, je le disais tout à l'heure, c'est Carl Salomon qui était présent à la séance du Vieux Colombier, et qui, quand il est rentré à New York, a forcé les portes d'un asile psychiatrique, il s'était identifié à Artaud. Et a exigé d'être lobotomisé sur le champ, évidemment.
Et d'avoir des électrochocs.
Oui, et bien il en a eu. Et ça a évidemment fait des dégâts terribles, comme sur Artaud d'ailleurs. Et son voisin, c'était Ginsberg. C'est comme ça qu'ils sont connus. Donc Ginsberg a su l'existence d'Artaud à travers Carl Salomon, et puis presque tout de suite après, il y a eu Marie Caroline Richards qui, à Black Mountain College, a traduit le théâtre et son double. Quant au « Pour en finir avec le jugement de Dieu », ce texte que vous connaissez bien, vous l'avez...
Qui avait été censuré à l'époque.
Qui avait été complètement à France Culture, c'était pas encore France Culture, c'était l'ORTF, a été frappé d'interdit, pas seulement censuré, mais oublié, enfermé à clé, d'où nous l'avons sorti d'ailleurs en 68.
Audacieusement.
Et donc, pour en finir avec le jugement de Dieu, a été traduit, qui est paru l'année de la mort d'Artaud, en 48, et a été traduit l'année suivante à New York, dans une petite revue, par Bernard Freckman. Donc, ils avaient la connaissance de tout ça. Exactement comme ils connaissaient le surréalisme par les revues parues en New York en 43, 44, 45. Pas seulement View et Triple View, mais les autres revues francophones ou anglophones.
Vous parlez de New York qui, évidemment, est une ville passionnante et nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Ils étaient attirés par Paris parce qu'ils y voyaient la littérature qu'ils ont admirée. Mais New York restait le centre mental, non, de tous ces artistes.
Ça a été... New York a été, au début des années 60, le véritable centre mondial de la pensée nouvelle. C'est inimaginable quand on y pense. On ne le savait pas à l'époque, on y vivait. Mais il y avait le Cedar Bar, n'est-ce pas, où les musiciens, les peintres, les poètes se retrouvaient tous les soirs. On fréquentait Pollock et de Kooning, Leroy Jones, le beatnik afro-américain, Diane De Prima, Ginsberg, Corso, Franz Klein, Ornette Coleman, Bud Powell. C'était incroyable. Enfin, quand on allait au bar pour prendre une bière... C'est tout juste s'il n'y avait pas Nietzsche ou Rimbaud à côté. Et donc, c'est la même année, les mêmes mois où le Living Theatre faisait son théâtre extraordinaire dans le même quartier, un peu plus loin. La peinture, c'était la grande peinture, le grand moment de peinture. Je sais pas, il y avait que des... On avait l'impression qu'on était dans un maelstrom où il n'y avait que des génies. Et c'est un peu comme à l'époque de Dada en Europe, ou à Zurich, ou à Paris, ou à Barcelone.
Il y avait eu une insémination surréaliste, enfin, ça, on ne peut pas limiter ça à ça.
Il n'y a aucun doute, ouais. Il n'y a aucun doute, évidemment. La présence de Duchamp, de Hülsenbeck, de Breton, de Max Ernst, de Tanguy, de Masson, de Lévi-Strauss. Évidemment que ça, tous les psychanalystes autrichiens qui sont arrivés à New York, évidemment que ça a changé les choses. C'est le nier comme ils le font là-bas, c'est aberrant. Et n'oublions pas Mata et Archil Gorky, enfin bon, on va pas les citer tous, la liste serait trop longue. Mais, c'est évident qu'il y a eu passation d'un relais. Et c'est très important, cette histoire de la prosodie Bob spontanée, qui est une traduction américaine de l'écriture automatique et et ce que les surréalistes appelaient l'automatisme psychique. C'est-à-dire la pensée de l'inconscient, finalement. C'est pas quelque chose qui est...
Ce qui est particulier, c'est que on a l'impression que quand on lit les textes automatiques surréalistes, ils sont des plongées dans l'imaginaire et le rêve. Quand on lit les textes de Kerouac, par exemple, ou de Ginsberg, c'est pas des textes dans lesquels l'imagination a une place. C'est des textes d'une réalité totale. Non, je me trompe?
Non, mais si vous le sentez comme ça, c'est vrai pour vous. Mais moi, j'entends le flux de l'inconscient là-dedans. Parce que Ginsberg disait toujours « first draft, best draft ». Premier jet, meilleur jet. Ben, c'est l'écriture automatique, ça. Il ne retouchait pas. n'est-ce pas? Et c'est encore plus vrai pour Philippe Lamantia, qu'on connaît moins bien ici, pour Bob Kaufman ou pour Michael McClure. Vous parliez de l'oralité tout à l'heure. Dans l'exposition, il y a un film extraordinaire en noir et blanc où on voit Michael McClure qui s'adresse dans sa poésie sonore, hein, onomatopéique, c'est-à-dire agrammaticale, il s'adresse à des lions. Des lions qui sont là présents.
Il y a un court film là-dessus où on voit McClure devant la cage aux lions.
C'est de ça que je parle.
Récitation de poèmes à des lions, c'est extraordinaire. C'est de ça que je parle. C'est une des
films. Heureusement que le lion est en cage parce qu'il l'aurait bouffé. Hein. Il était furieux, le lion. Alors il y a une sorte de dialogue d'une espèce à l'autre. Le lion, Michael fait des rugissements et le lion lui répond, n'est-ce pas? C'est en effet un moment de haute magie.
C'est très, très
et,
fort.
La poésie beatnik, la poésie des beatniks a quelque chose de très dangereux et en même temps de sublime. J'aime beaucoup la photo, le portrait de Burroughs pris par Geisen à Paris en 58, où on voit Burroughs contre une palissade sur laquelle il y a le mot écrit en très gros « danger ». Et qu'est-ce qui est mis en danger? C'est la langue de bois.
C'est une des photos qui apparaît dans le catalogue que vous avez fait récemment de Burroughs à la galerie Semmiose à Paris. C'est un très très beau catalogue, un texte sensationnel.
Eh bien, vous savez qu'ils vivaient ensemble, Burroughs et Geisen, alors que Burroughs a accepté de se faire photographier devant ce mot écrit en énormes lettres derrière lui, ça dit tout. Et vous savez que Burroughs a été publié à Paris, parce que les éditeurs américains, dont Ferlinghetti, n'en voulaient pas. Ils avaient la trouille de publier ça. Et c'est ça qui les a attirés à Paris. C'est pas la France, c'est pas la culture française. C'est le fait qu'il y a cette espèce de lieu mythique qui appartient à tout le monde, et pas seulement aux Parisiens. C'est là où Joyce a été publié à Paris pour la première fois, n'est-ce pas, avant la guerre, où Beckett a été publié à Paris, où Henri Miller a été publié pour la première fois à Paris. Donc ils se sont insérés dans cette lignée-là, tout à fait délibérément, et c'est très bien que Burroughs ait été publié pour la première fois à Paris lui aussi, et je vous rappelle que son premier disque, Call Me Burroughs, a été enregistré et fabriqué à Paris, par la librairie anglaise en 65.
Pourquoi est-ce que New York avait peur, l'Amérique avait peur de ces textes?
C'est pas l'Amérique
c'était
qui avait
peur. C'était le macartisme,
C'est le macartisme d'une part, et c'est l'establishment universitaire américain, n'est-ce pas? En Amérique, l'université domine tout, contrôle tout. Il y a une espèce de bureaucratie policière, n'est-ce pas, qui régente tout. Et si vous voulez, par exemple, l'autre jour, je me posais la question à des amis américains, mais comment se fait-il que cette extraordinaire exposition, qui est la moitié du sixième étage du Centre Pompidou, elle aurait dû avoir lieu aux États-Unis quand même.
Oui, c'est très mystérieux.
N'est-ce pas?
Oui.
Et pourquoi? Et les cinq autres que j'ai organisées 2 ans avant, pourquoi pas l'Amérique? Alors j'ai écrit au directeur du MoMA, que je connais bien, pour lui proposer cette exposition, il m'a même pas répondu. Alors la question, c'est pas simplement Donald Trump, c'est que ses amis me disaient, aujourd'hui, un étudiant ou une étudiante qui voudrait faire une thèse sur l'œuvre de Burroughs ou de Ginsberg ou de Kerouac, il trouverait aucun prof comme directeur de thèse, aucune université qui n'en voudrait. C'est quand même inouï.
J'y crois à peine.
Ils sont encore en exil.
Alors, cher Jean-Jacques Lebel, je vous propose d'écouter à nouveau Kerouac, enfin, devrais-je dire plutôt, Kerouac lui-même, qui définit la Beat Generation en juillet 1966 au micro de Fernand Seguin de Radio-Canada. Et c'est là que nous voyons qu'effectivement, Kerouac parle français.
Là, vous êtes devenu le fondateur de la Beat Generation. Qu'est-ce que c'était la Beat Generation pour vous? Parce que tout à l'heure...
Il y avait la Lost Generation de 1920,
oui.
Puis c'était 1940, 50. On disait, qu'est-ce qu'on va appeler ça? Qu'est-ce qu'on va appeler ça?
C'est vous qui l'avez inventé, ce terme-là, Beat Generation.
J'ai entendu des vieux bonhommes dire ça, dans le sud, des vieux nègres,
oui.
Beat.
Dans le sens de écrasé, vaincu?
Oui, pauvre. Après ça, j'ai été dans la petite église de Saint-Jean-d'Arc. Puis d'un coup, j'ai dit, ah, Beat,
Béatitude. ça a changé de sens, alors, dans votre
esprit. Beato en italien. Mm-hmm. Beato. Beatifique en français.
Mais est-ce qu'il n'y avait pas aussi le sens de beat de l'orchestre de jazz?
Oui, puis le sens de tout ça. Puis de tout ça. Comment on fait ça? Les canous. Puis le drum. Mm-hmm. Puis c'est pas important. Le nom n'est pas important.
Mais
les enfants sont importants.
La Beat Generation. C'était une vision que nous avions, John Cleland Holmes et moi, et Allen Ginsberg, de manière encore plus sauvage à la fin des années 40, d'une génération de hipsters fous et illuminés, émergeant brusquement et parcourant l'Amérique, sérieux, flemmards, et faisant du stop un peu partout, dépenaillés, béats, beaux d'une nouvelle forme de grâce hideuse. Une vision glanée dans la façon de dire « beat », entendue au coin des rues de Times Square et dans le village, et dans d'autres villes de cette nuit du centre-ville de l'Amérique d'après-guerre. Beat voulant dire fauché, mais plein d'une intense conviction. Jack Kerouac, mars 1958.
Vous êtes sur France Culture et nous parlons avec le poète, écrivain, artiste Jean-Jacques Lebel, de Jacques Kerouac et de la Beat Generation à propos de la grande exposition qui est au Centre Pompidou en ce moment sur la Beat Generation justement. Et nous avons commencé notre entretien sur le grand rouleau de Jacques Kerouac et nous continuons notre chemin. Jean-Jacques Lebel, c'était la voix étrange de Kerouac. Ses amis savaient qu'il parlait français
et... Ben bien sûr. Ils sont allés lui rendre visite. Il vivait dans le Massachusetts, donc avec mes mères et sa famille. Et tout le monde, sa langue maternelle était le français. Et à la maison, il parlait que français. Et évidemment, quand il est allé à l'école et qu'il s'est mis à jouer du football, il y a une fameuse photo de Kerouac jouant au football américain, hein, pas au football français, une espèce de rugby brutal, il a commencé à parler anglais. Il était bilingue. Mais la langue de son enfance, c'est le français. Et d'ailleurs, ses premiers textes et ses premiers dessins, il est signé Tijan, c'est-à-dire Petit Jean, Jean-Louis.
Alors, on parlait tout à l'heure de...
Et vous entendez ce merveilleux accent québécois
qu'il a ? L'accent des cousins, de nos cousins.
C'est formidable.
C'est très savoureux. Et dites-moi, il y a autour de ce groupe, il y a le danger dont vous parliez tout à l'heure, et il y a aussi l'intoxication.
Ouais.
Et l'intoxication, c'était une expérience probablement psychique, une sorte de psychose expérimentale. Qu'est-ce qu'on peut dire de cela ?
C'est l'enfer, en fait. L'enfer. C'est une saison en enfer. Là, on revient à Rimbaud. Hein. C'est une saison qui, pour William Burroughs, a duré toute sa vie.
Il n'a pas cessé de vouloir s'en sortir, alors, Burroughs.
Pour ce qui est, on va, parce qu'ils sont très différents finalement les uns des autres. Burroughs, c'est pas un secret, était complètement défoncé à l'héroïne à Tanger, où il vivait dans un hôtel sombre, sans lumière, enfin atroce. Il avait une organ box de Reich qu'il avait bricolé. Il passait sa journée enfermé dans le jardin de l'hôtel, qui était un jardin minable d'ailleurs, où je lui ai rendu visite, enfermé dans son organ box, qui était une espèce de cercueil vertical. Ça n'allait pas du tout. Et alors finalement, d'ailleurs, il y a les fameuses photos prises par Ginsberg où on voit Kerouac, Orlovsky et Ginsberg qui lui ont rendu visite à Tanger. Et c'est là qu'il a commencé à prendre les notes pour le déjeuner nu. Et il est venu à Paris, pas seulement, mais en partie aussi pour entreprendre une psychanalyse, pour essayer de se désintoxiquer.
Il a rencontré Deleuze à ce moment-là ?
Non. Non, non. Il a rencontré Deleuze beaucoup plus tard. Par contre, quand ils sont venus à Paris, quand ils étaient à Paris au Beat Hotel en 57-58, et en mars 58, je leur ai fait rencontrer Marcel Duchamp, Benjamin Perret, Man Ray et Octavio Paz. Et c'est une rencontre fondamentale dont Ginsberg a souvent parlé. Et dans la vidéo qu'il y a ce film qui dure 6 heures, que j'ai tourné avec Alain Jaubert et lui, il en reparle de cette soirée.
Ginsberg est arrivé ivre-mort. D'habitude, il n'avait pas l'habitude de boire du tout. Il fumait des joints, il prenait ce qu'il y avait, mais pas d'alcool. Ce soir-là, parce qu'il était très nerveux de rencontrer ces grands poètes dadaïstes et surréalistes, il était ivre-mort, et Grégory Corso, qui était là aussi, a dégobillé dans l'escalier. Voilà.
Mais et, juste pour revenir,
Ginsberg
nous reste...
s'est précipité sur, j'en finis rapidement, s'est précipité sur Duchamp et s'est agenouillé devant lui, il lui a embrassé les genoux et Corso a sorti une grande paire de ciseaux et a coupé la cravate de Duchamp.
Qui a dû rigoler.
Oui, il a trouvé ça merveilleux. Évidemment, c'est une citation du livre de Motherwell qui raconte ça. Voilà.
La question que, sur laquelle je voulais que vous répondiez, c'était la question de la désintoxication.
Ah, alors... Ça n'a pas marché, ni pour Burroughs, ni pour Kerouac. Kerouac est devenu ivrogne, tout le monde le sait d'ailleurs, dans ce très beau texte de Deleuze que vous avez cité en début d'émission, il le dit, qu'il fallait être un ivrogne pour parler de cette aventure sans fin qu'est l'intoxication.
Si sobrement, dit-il.
Si sobrement, et il se réfère à ce passage de Henri Miller dans le Trapic du Capricorne, où il s'agit de Paris, justement, où Miller est parti dans une skise tellement sublime qu'il se saoule avec de l'eau. Voilà.
C'est alors ça, l'idée... le grand succès, c'est ça, le parvenir à se saouler avec...
Avec sa propre énergie.
C'est ça, exactement.
Et en fait, le yoga, c'est ça, hein. La méditation, c'est ça.
Et la transe soufie, c'est ça bah, aussi.
Exactement. C'est pour ça que la soirée merveilleuse de Centre Pompidou, où 12 musiciens Djadjouka venus spécialement de Tanger, ont soulevé tout le monde dans la grande salle du Centre Pompidou, en hommage à Brian Gysin et à Burroughs. Alors, évidemment, la Dream Machine,
oui,
alors, était une tentative.
La Dream Machine, c'est
à mon avis,
une construction de Gysin et Somerville.
Voilà.
Qui était un cylindre qui tourne et crée des ondes lumineuses, une sorte de flicker.
Des phosphènes,
oui,
qui visent la pupille et qui permet d'entrer en transe. Il faut la regarder les yeux fermés. Et il aurait dû s'en servir davantage. Ça l'aurait peut-être empêché d'utiliser l'aiguille et de se trouer partout.
C'était l'illusion, l'extraordinaire approfondissement par des moyens strictement psychiques. C'était une période expérimentale totale. Merci infiniment, Jean-Jacques Lebel.
Merci à vous.
Je crois sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste.
C'était Les Regardeurs en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Aujourd'hui, nous avons commenté le célèbre texte original du roman On the Road de Jacques Kerouac qu'il a écrit en 1951 sur un grand rouleau de 36 mètres de long. Nous étions en compagnie de Jean-Jacques Lebel, l'artiste co-commissaire de la très réussie exposition sur la Beat Generation. Je signale également l'exposition des œuvres de Jean-Jacques Lebel, intitulée Transfert, en ce moment à la galerie Louis Carré, 10 avenue de Messine, à Paris, et ce jusqu'au 22 octobre, des œuvres des années 60 étonnantes. Vous retrouverez toutes les références des livres et des musiques sur le site franceculture.fr. Attaché d'émission et site internet, Sylvia Favre, merci Sylvia. Lecture des textes, Hélène Losseur. À la technique, Jean-Richard Dufour. Réalisation, Franck Lilin. Les Regardeurs, une émission de Sandra Adam, merci Sandra. Et Jean de Loisy.
Come before you go, babe. Go until you come, babe. Come until you go, babe. Go to come for me, babe. Come to go by me, babe. Come to go with
beg, let me go. Go to be my bacon. Be my coming babe. Go. Go to come out, baby. Baby comes now, we go. Baby, can you come, go? My babe, not me too.